Et de ceux qui ont attendu au cours de 9 heures, c'est vraiment les grèves d'une part et l'état des routes d'autre part. Alors c'est pour ça qu'il y a eu du retard. Je vois tout de suite avec vous et je continue avec vous ces quelques remarques simplement pour essayer, et faites-le vous-même, essayez de comprendre comment de fait il y a comme un oubli de l'acte dans la philosophie après les théologiens. Je vous ai montré, du moins, je vous ai montré combien c'était difficile de comprendre dans saint Thomas l'utilisation de la philosophie de l'acte et de la puissance d'Aristote. C'est présent, mais c'est bien difficile. Il faudrait regarder comment Suarez la transformer. Mais je ne le vais pas le regarder. Je vois tout de suite parmi les philosophes, après, quand les philosophes ont voulu retrouver l'autonomie de la philosophie, il faut évidemment parler de Leibniz et de l'entelecheia. Revu et interprété par Leibniz, l'entelecheia devient avant tout efficience, force active. C'est intéressant parce que c'est comme une espèce d'interprétation physique, selon la science. C'est la force active qui anime la substance, qui anime la monade, et qui est intermédiaire entre le pouvoir et l'action. Vous voyez qu'au fond, on revient à l'idée de la dunamis. En réalité, c'est la dunamis. C'est pas autre chose. Alors on dit elle est entelecheia, mais c'est au fond entre le pouvoir et l'action. Alors c'est plus que le pouvoir, sont les virtualités du pouvoir. C'est comme l'effort. C'est le ténos des stoïciens, l'effort grâce auquel le pouvoir passe de lui-même à l'action, si rien ne l'empêche. Bon, l'entelecheia n'est pas encore l'action. C'est donc ce qui est juste avant l'action, ce qui précède l'action. C'est une force active, une force efficace. Leibniz tient à bien spécifier que la notion d'entelechie, qui n'est pas entièrement, dit-il, à mépriser, porte avec elle non seulement une simple faculté active, mais aussi ce qu'on peut appeler force, effort, conatus, dont l'action même doit suivre si rien n'en empêche. Oui, c'est comme la disposition ultime à l'action, la disposition ultime à l'acte. C'est du côté du sujet et c'est sa disposition ultime avant de passer à l'acte. Et il précise, alors que la puissance active des scolastiques, ou faculté, a cependant besoin de recevoir, pour passer à l'acte, l'excitation d'autre chose. Donc c'est le sujet porteur de l'entelecheia qui peut par lui-même s'actuer. Je crois que c'est ça cette idée-là. Il peut par lui-même s'actuer. C'est la vitalité de la puissance qui peut par elle-même. Elle n'a plus besoin d'une autre détermination. C'est pour ça qu'il dit conatus, un effort, une force. Aussi précise-t-il que les formes qu'Aristote appelle entelechie première, lui-même les appelle peut-être plus intelligiblement force primitive. C'est intéressant d'avoir le parallélisme. Donc les entelecheia premières deviennent les forces primitives, qui ne contiennent pas seulement l'acte ou le complément de la possibilité, mais encore une activité originale. Il souligne que si la puissance est prise pour la source de l'action, elle dit quelque chose de plus qu'une aptitude ou facilité, car elle renferme encore la tendance, l'appétit, ce qu'on dirait l'appétit. fond, je crois qu'on pourrait presque identifier l'appétit et l'entelekeia dans la perspective de Leibniz. C'est pourquoi, dans ce sens, Leibniz dit, j'ai coutume de lui affecter le terme d'entéléchie, qui est ou primitive et répond à l'âme prise pour quelque chose d'abstrait, ou dérivative, telle qu'on conçoit dans le conatus et dans la vigueur et dans l'impétuosité. Et c'est pas très précis. Hein. C'est quelque chose qui... C'est tiré des nouveaux essais sur l'entendement humain. La puissance d'agir sans aucun début d'acte est nulle. Ça, c'est très intéressant. La puissance d'agir sans aucun début d'acte. Le début de l'acte, c'est donc l'entéléchie. La scolastique dirait l'acte premier. Et l'acte second, c'est l'action. Et donc l'acte premier, c'est l'entéléchie. Notons encore cet autre passage dans le De Vera Methodo Philosophiae et Theologiae. Si la puissance répond au latin potentia, elle est opposée à l'acte. Et le passage de la puissance à l'acte est le changement. Faut pas oublier, n'oubliez pas que Leibniz, c'est le dernier grand scolastique. Hein. Faut jamais oublier ça. Avec Leibniz, on est en phase encore d'une continuité avec ce que pensant à penser scolastique, comme avec Descartes, si vous voulez. Difficile de comprendre Descartes si on ne voit pas un tout petit peu ce qui est avant lui. Eh bien, Leibniz fait une très grande synthèse philosophique et scientifique, parce que c'est le prof de Leibniz. C'est une espèce de synthèse philosophique et scientifique. Autrement dit, la philosophie émerge à partir de la science. C'est à partir de la science qu'on va comprendre le point de vue philosophique. Donc il y a toujours un mélange des deux. Position très curieuse, intéressante, difficile, complexe. C'est très complexe, Leibniz. C'est ce qu'Aristote entend par le mot de mouvement, donc ce changement, quand il dit que c'est l'acte ou peut-être l'actuation de ce qui est en puissance. On peut donc dire que la puissance en général est la possibilité du changement. Or, le changement ou l'acte de cette possibilité étant action dans un sujet et passion dans un autre, il y aura aussi deux puissances, l'une passive et l'autre active. L'active pourra être appelée faculté, et peut-être que la passive pourrait être appelée capacité ou réceptivité. Il est vrai que la puissance active est prise quelquefois dans un sens plus parfait, lorsque, outre la simple faculté, il y a de la tendance. Et c'est ainsi que je la prends dans mes considérations dynamiques. On pourrait lui affecter particulièrement le mot de force, et la force serait ou entéléchie ou effort. Car entéléchie, quoiqu'Aristote la prenne si généralement qu'elle comprenne encore toute action et tout effort, me paraît plutôt convenir aux forces agissantes primitives et celles d'effort aux dérivatives. Donc vous voyez les deux aspects sous lesquels on peut regarder l'entéléchie. C'est le point de vue de la force ou le point de vue de l'effort. Mais la force, c'est quelque chose de premier. Il y a même une espèce de puissance passive plus particulière et plus chargée de réalité. C'est celle qui est dans la matière, où il n'y a pas seulement la mobilité qui est la capacité ou réceptivité du mouvement, mais encore la résistance qui comprend l'impénétrabilité et l'inertie. Les entéléchies, c'est-à-dire les tendances primitives ou substantielles, lorsqu'elles sont accompagnées de perceptions, sont les âmes. Comprenez bien ce que c'est que l'âme. Donc vous voyez, ce sont les entéléchies, les tendances primitives ou substantielles, lorsqu'elles sont accompagnées de perceptions. Donc le mot entéléchie est quelque chose de très, très particulier. C'est un des grands axes, si vous voulez, on pourrait dire, de toute la perspective de Leibniz. Tout commence par le point de vue du possible. Vous savez bien que Leibniz met très en lumière le point de vue du possible. Et Leibniz met entre le possible et l'action l'entéléchie. Alors voyez, il y a quelque chose d'intéressant dans cette perspective. C'est pour ça que je la souligne. Parce que pour Aristote aussi, l'entéléchie est d'une certaine manière une médiation entre la dunamis et l'énergeia. Alors vous retrouvez quelque chose de semblable. C'est très très différent, parce qu'on ne peut pas dire du tout que ce qu'il nous dit sur l'entéléchie, c'est vraiment ce que Aristote pensait. Du reste, il ne veut pas reprendre la pensée d'Aristote. Il dit que chez Aristote, c'est très confus. N'est-ce pas ? Il veut préciser quelque chose, de donner une précision plus grande que Aristote n'a pas donnée. Je n'insiste pas plus. Je vois tout de suite avec vous le dernier aspect qui me semble important pour nous à saisir, c'est de comprendre que Heidegger remet très en lumière, et d'une manière peut-être plus vraie, l'entéchie d'Aristote que Leibniz. Heidegger estime que d'un bout à l'autre de l'histoire de la métaphysique, Aristote est le seul à avoir pensé à fond l'énergéia. Vous voyez, le grand coup de chapeau. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que c'est quand même très intéressant de voir ça. C'est dans le dépassement de la métaphysique, hein, essais et conférences, dans la traduction française, page 87. Donc il estime que d'un bout à l'autre de l'histoire de la métaphysique, Aristote est le seul à avoir pensé à fond l'énergéia, mais sans que cette pensée ait jamais pu, par la suite, devenir essentielle dans ce qu'elle a d'original. En effet, l'énergéia a été traduit par actus, traduction par laquelle le monde grec, d'un seul coup, a été liquidé. C'est Heidegger qui dit ça, c'est intéressant. Très sensible à l'étymologie, très sensible à la langue, eh bien, le monde grec, la ruine du monde grec, au point de vue de sa pensée, vient de la traduction de energeia en actus. C'est assez bien dit, c'est assez joli, il y a quelque chose de juste, hein, faut pas l'oublier. Et de là, on l'a dénaturé en actualitas. Et en réalité effective. Réalité effective, voyez, Leibniz. On voit très bien l'actualitas. En réalité effective, l'effectivité, l'efficience, l'objectivité, la fabricabilité, l'étant est réel en tant qu'effectif. Donc c'est l'énergéia qui va donner le caractère de réalité. Alors en réalité, ce n'est plus du tout l'énergéia d'Aristote. Et il n'est plus maintenant que l'apparence de sa stabilité qu'en étant fait objet, soit pour le regarder, soit pour le faire, pour les variations sans fin de l'activité industrieuse. Donc, première chute de l'énergéia, actus. Deuxième chute de l'énergéia, actualitas. Alors, l'actualitas, c'est l'actualité, c'est le réel tel qu'il se présente à nous. C'est la réalité, et alors à partir de là, on ne peut plus rien voir. De même, toujours Heidegger, l'appellation suprême utilisée par Aristote pour l'être, l'entelekeia. Alors, vous voyez, c'est intéressant que Heidegger met entelekeia au-dessus de energeia. Nous faisons l'inverse. Je mets entelekeia pour découvrir energeia. Tandis que Heidegger, ça, ce serait très intéressant à voir pourquoi Heidegger fait ça. C'est toujours intéressant de voir un auteur comme Heidegger interpréter la pensée d'Aristote ou la pensée de Platon. Parce que c'est quand même intéressant de voir comment il a digéré Aristote. Hein. Donc, de même, l'appellation suprême utilisée par Aristote pour l'être, l'entelecheia, a été déformée par l'usage qu'en ont fait la philosophie ultérieure, en particulier Leibniz, et même la biologie. Les biologistes sont facilement leibniziens. Le professeur Lejeune, une fois que j'ai écouté une de ses conférences, je lui ai posé la question, est-ce que vous n'êtes pas leibnizien? Il m'a dit oui. Le seul philosophe que j'aime, c'est Leibniz. C'est intéressant de voir ça. C'était très net, quelques affirmations qu'il avait données, on voyait tout de suite l'influence de Leibniz, c'était pas de la science, c'était donc une pensée philosophique, il fallait tout simplement le voir. Vous voyez, Leibniz conduit facilement à une apologétique. Leibniz a ce pouvoir extraordinaire d'universaliser certaines choses. Alors ça donne une espèce d'apologétique. C'est intéressant à voir, de voir que facilement, les biologistes d'aujourd'hui seraient leibniziens. En réalité, explique Heidegger, le sens grec de energeia et entelecheia est tout autre. Alors voilà l'explication qu'il va donner. L'energeia n'a rien à voir avec l'actus ou avec l'activité, l'actualitas, mais seulement avec ergon. Au point de vue étymologique, c'est très vrai. Je crois que pour Aristote, Aristote a dépassé l'étymologie. Mais pour l'étymologique, c'est vrai. Le mot energeia est lié à ergon, dont les Grecs ont eu l'expérience, et avec sa manière d'être produit devant nous dans la présence. L'energeia, c'est l'être en œuvre, au sens de l'entrée dans la présence. Vous voyez comment Aristote est regardé. C'est curieux, c'est intéressant, comme toujours, il y a toujours quelque chose à tirer de là. Comment l'energeia, c'est l'être en œuvre, au sens de l'entrée dans la présence. Présence du présent. Donc, il est présent à moi par son œuvre. Sur moi. La présence, c'est quelqu'un est présent à moi dans la mesure où il agit en moi, où il agit sur moi. Je suis présent à vous dans la mesure où je vous donne un coup de poing. Quoi. C'est ça, vous êtes prêt immédiatement. Il y a une réaction, il y a une présence. Donc il faut une œuvre. Pour qu'il y ait une présence, il faut une œuvre. Alors l'être en œuvre, au sens de l'entrée dans la présence, voilà l'energeia. Il avait dit quelque chose d'assez semblable à propos de l'ousia. L'ousia, c'est aussi la présence. C'est un être est présent à moi grâce à son ousia. Vous voyez, tout se traduit par le point de vue de la présence. Parce que, de fait, c'est là où on voit une certaine idéaliste qui demeure. Quant à l'entelecheia, elle est le se tenir. Dans la terminaison, l'entelecheia, vous voyez, c'est presque la subsistance. Hein. L'entelecheia, c'est la manière de se tenir. C'est pas être en présence, être en œuvre et en présence. Entelecheia, c'est, il y a quelque chose de juste, là aussi. C'est elle est le se tenir dans la terminaison, dans la limite. Elle est le se posséder dans la fin. C'est très vrai, se posséder dans la fin. Commentant un passage de la physique, Heidegger précise, le se posséder en fin, dans la fin, est le déploiement intime de la mobilité, c'est-à-dire l'être de ce qui est mu. Parce que cette reposance suffit le plus proprement au déploiement de l'ousia. Donc l'entelecheia permet le déploiement propre de l'ousia. Et ce déploiement propre de l'ousia, c'est cette reposance. Cette reposance. On est dans un état de se reposer. C'est pas la détente, hein, mais cette reposance. Et cette reposance permet justement d'être, de se tenir en soi-même dans sa propre fin. Quand on est dans sa propre fin, on a cette reposance. Dites-vous bien ça. Quand vous êtes dans votre fin, vous êtes dans votre... Vous voyez, le petit chat auprès du feu et se chauffant au feu. Il est dans sa reposance. C'est un peu sa gloire. Hein? C'est un petit peu ça. J'ai quelque chose d'analogue dans la gloire. Un être est dans sa gloire. Il est pleinement lui-même. C'est l'épanouissement plénier de sa substance, de l'ousia. Donc, parce que cette reposance suffit le plus proprement au déploiement de l'ousia, ou en soi, constante présentation dans le visage. C'est encore une autre manière de regarder l'entelekeia. Vous voyez, c'est en soi, constante présentation dans le visage, dans le face-à-face. On est présent à quelqu'un. C'est ce qu'Aristote dit à sa façon, ajoute Heidegger, dans une phrase de la métaphysique. Le cocktail est très amusant, n'est-ce pas ? Il est très amusant et très, très curieux de voir la manière dont, de fait, il interprète la pensée d'Aristote. Dans une phrase de la métaphysique où la pensée aristotélicienne, et cela veut dire en même temps la pensée grecque, atteint son sommet. La pensée grecque atteint son sommet, donc grâce à l'entelekeia. Il faut voir qu'il y a là quelque chose de très grand. C'est pour lui, la pensée aristotélicienne, cela veut dire en même temps la pensée grecque. Il identifie pensée grecque et pensée aristotélicienne. Au fond, le sommet de la pensée grecque pour lui, c'est la pensée aristotélicienne qui atteint l'entelekeia. C'est quand même très intéressant de voir ce témoignage. Vous voyez, qui ne ramène pas du tout Aristote à l'ousia ou à l'ousiologie, pas du tout. Il prend l'ousia comme une présence et le déploiement de l'ousia. Le déploiement de l'ousia, donc le dépassement de l'ousia, c'est l'entelekeia. Et c'est là seulement qu'on a le sommet. On a le sommet de la pensée grecque dans l'entelekeia. C'est quand même assez beau. Il y a quelque chose qu'il a saisi au point de vue de la beauté. Il y a quelque chose d'intéressant à voir. Et où il s'agit expressément donc de l'entelekeia. La traduction habituelle de cette phrase, qui est une phrase de la physique, manifestement la réalité est antérieure à la possibilité, apparaît comme une évidente erreur. Car c'est bien plutôt la possibilité qui est antérieure à la réalité. Car pour que quelque chose soit réel, il faut d'abord que cela soit possible. Oui, le restant de Leibniz dans Heidegger. Le primat du possible, comme on a de la peine à en sortir. C'est pas étonnant, parce que dans la mesure même où être et devenir sont toujours un peu bloqués, et quand on identifie l'être et la présence de l'être, être en œuvre, le possible est premier. C'est très très curieux, mais c'est très intéressant pour essayer de comprendre, confronter ces deux pensées. Hein. C'est au sommet qu'on les confronte. Quand on essaie de comprendre ce que c'est que l'entelekeia vu par Heidegger par rapport à la pensée d'Aristote. Donc, ce n'est pas la réalité en acte qui est antérieure à la possibilité, c'est bien plutôt la possibilité qui est antérieure à la réalité, car pour que quelque chose soit réel, il faut d'abord que cela soit possible. Mais en réalité, pour penser en grec, et d'une manière aristotélicienne, il faut penser la dunamis, non comme potentia, capacité ou possibilité que quelque chose a, mais comme l'être approprié pour, qui, et le mode encore retenu et contenu de paraître et de ressortir dans le visage, où l'être approprié s'accomplit. Difficile à bien saisir, hein? Quand Aristote affirme que l'énergeia est antérieure, quant à l'ousia, à la dunamis, il veut dire, selon Heidegger, que l'énergeia accomplit de façon plus originelle le déploiement de la pure entrée en présence, dans la mesure où elle signifie le se posséder en œuvre et en fin, qui a laissé derrière lui tout le pas encore de l'être approprié pour, et même encore mieux, qui l'a mis en avant avec lui dans l'accomplissement du visage pleinement achevé. Heidegger résume ainsi la thèse principielle d'Aristote sur le rapport hiérarchique d'entelekeia et dunamis. L'entelekeia est davantage ousia que dunamis, la première accomplit plus intimement que la seconde le déploiement de l'entrée dans la présence, en sa constance constamment référée à elle-même. Alors, méditez cela. C'est de saisir ce que ça veut dire. Hein. C'est quand même intéressant de voir qu'il s'est quand même arrêté à ça. Et alors, au-delà de l'entelekeia, il y a la dunamis. Vous voyez, interprétation platonicienne et néoplatonicienne d'Aristote. C'est ça, je crois qu'il faut le dire, parce que ça, nous retrouvons exactement la position de Plotin. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est exactement la position de Plotin. Si vous comprenez un peu Plotin, vous voyez bien ce qu'il veut nous dire ici. Au-delà de l'énergeia, au-delà de l'entelekeia, il y a la dunamis. La dunamis est toujours présente. Et donc, ce qu'il dit par rapport à l'ousia, c'est très intéressant, c'est que, de fait, l'ousia est premièrement dunamis avant d'être entelekeia. Pour pouvoir être entelekeia, l'ousia doit être dunamis. Et alors, grâce à cela, elle peut entrer en contact, elle peut être en présence. Mais il faut d'abord qu'elle soit ousia dunamis. Ce qui est du reste très vrai, parce que vous voyez, vous restez toujours dans le point de vue du devenir. Vous concevez le point de vue du devenir, un peu comme dans la philosophie plotinienne où l'être et le devenir sont toujours liés, puisqu'on est lié à la procession. Dans l'ordre de la procession, et si je reste toujours dans l'ordre de l'émanation et de la procession, la dunamis est antérieure. Vous voyez, si je parle de la création, par exemple, hein, essayez de réfléchir, parce que c'est intéressant, il ne faut pas rejeter ça trop vite, il faut essayer de comprendre combien Heidegger est proche de la pensée néoplatonicienne. Alors, comme la pensée néoplatonicienne veut intégrer Aristote, il faut bien le voir, Plotin ne rejette pas entièrement Aristote, il rejette les catégories. Mais la question de l'acte, la question de la puissance, ben, il l'assume. Donc, il y a une certaine intégration de la pensée aristotélicienne. C'est pas du tout rejeté. C'est pas du tout dire oh, l'aristotélisme n'a rien à voir. Du tout, pas du tout. Le néoplatonisme veut assumer l'aristotélisme. Et Heidegger est sûrement beaucoup plus proche de la pensée néoplatonicienne que de la pensée aristotélicienne. Ça, c'est sûr. Et alors, dans la pensée platonicienne, qu'est-ce qui domine tout? C'est le point de vue de la procession. Je crois que c'est la procession qui domine tout. C'est que je ne peux pas penser l'être sans la procession. Je ne peux pas penser l'intelligence sans la procession. Je ne peux pas penser l'un sans la procession. Donc c'est vraiment le point de vue de la procession qui domine. L'un ne peut pas exister seul. Il ne peut pas, c'est impossible. Donc il existe toujours dans la procession et par la procession. Autrement dit, c'est comme si, faites attention à l'équivalence, c'est comme si je disais, je ne peux penser que le Dieu créateur. Je ne peux pas penser Dieu sans la création. Ça existe, du reste, ces positions-là. Dieu seul, non, c'est absolument impossible. Qu'est-ce qu'il ferait seul? Au moins, il s'occupe dans la création. Tu vois, il est en acte d'occupation pour la surabondance de son être. Alors, si je pense création comme identique à Dieu, je vois que c'est la dunamis qui est antérieure, c'est la toute-puissance. Vous voyez, c'est toujours la même idée. Et c'est l'islam. C'est curieux, ces choses-là. C'est la dunamis qui est antérieure, c'est la toute-puissance qui est antérieure. Parce que c'est à partir de là que je comprends la création. Alors, il y a une vision, on pourrait presque dire, vous voyez, que ce sont des visions, au fond, théologiques néo-platoniciennes. Je suis persuadé que si on veut vraiment saisir Heidegger, il faut le regarder comme une théologie qui a quitté l'explicitation théologique et qui veut saisir l'être dans cette lumière. Vous voyez, regardez, quand il veut saisir l'être, c'est toujours à partir du ex nihilo. C'est à partir de rien que je peux saisir l'être. Et il le dit explicitement. Les théologiens, pour expliquer la création, disent ex nihilo. Donc, pour saisir l'être, je dois regarder le point de vue de la création. C'est à travers la création que je saisis l'être. Or, pour saisir la création, c'est le ex nihilo, qui est antérieur, d'une certaine manière. Alors, vous avez le ex nihilo et vous avez la dunamis. Et les deux sont antérieurs, d'une certaine manière, à l'être. Il faut essayer de comprendre, parce que c'est intéressant comme... Au moins, ce qui est intéressant là, c'est la mise en lumière nouvelle, et c'est courageux sous ce point de vue-là, c'est courageux d'affirmer que la pensée grecque atteint son sommet dans l'entelecheia. Et c'est intéressant de voir que la pensée grecque atteint son sommet dans l'entelecheia. Mais l'entelecheia comprise à la manière néoplatonicienne, et que d'une certaine manière, alors c'est là, vous voyez, qu'il y a une petite contradiction, parce que si la dunamis est antérieure à l'entelecheia, au fond, c'est la dunamis qui est le sommet de la pensée grecque. Eh bien non, c'est l'entelecheia qui est le sommet de la pensée grecque. Alors, ça fait comprendre peut-être que la dunamis et l'entelecheia ne peuvent jamais se séparer. C'est comme ça que je l'explique, pour éviter la contradiction. Que c'est par l'entelecheia que je saisis vraiment la dunamis. Mais une fois que j'ai saisi l'entelecheia, je saisis la dunamis et je comprends que la dunamis est antérieure à l'entelecheia. Et ceci, je le comprends à partir de l'ousia. Donc il y a là quelque chose d'intéressant à chercher. Parce que ce n'est pas n'importe quelle pensée. C'est une pensée qui essaie d'être poétique et métaphysique. Alors en tant que pensée poétique, en tant que c'est une philosophie qui est avant tout poétique, je comprends très bien comment la dunamis est antérieure. L'inspiration est première. Et c'est à partir de l'inspiration, et l'inspiration, c'est cette dunamis profonde qu'il y a dans l'artiste. C'est à partir de là que je comprends tout le reste. Mais alors, dunamis liée à entelecheia. C'est peut-être cela qui est un des aspects par où on peut le mieux comparer, voyez. Il faut comparer Heidegger à Aristote là où lui-même fait cette comparaison. Alors ça nous aide à mieux saisir. Nous allons maintenant, à partir de ces quelques réflexions, essayer nous-mêmes de réfléchir sur le problème métaphysique de l'être en acte. L'énergeia et l'entelecheia. Voyons maintenant comment nous devons aujourd'hui, au niveau d'une philosophie première, redécouvrir l'acte, sa présence, voir ce qu'il y a de juste dans ce que dit Heidegger, et ce qu'il est, donc au-delà de Heidegger. Puisque, si importante que soit l'action, les doctrines qui s'y limitent
ne s'élève pas au niveau de la philosophie première. Elle demeure liée à l'homme. Il ne faut pas oublier que Heidegger, là aussi, il a beaucoup de courage de montrer qu'on ne peut pas s'arrêter à une anthropologie. On doit dépasser une anthropologie pour saisir l'être. Si vous restez au niveau de la praxis, au niveau de l'action, au niveau de la liberté, tous les philosophes qui sont à ce niveau-là, pour Sartre, le sommet, c'est la liberté. Pour Marx, le sommet, c'est la praxis. Pour beaucoup d'existentialistes, Gabriel Marcel, le sommet, c'est la fidélité. Il n'y a rien de plus grand que la fidélité. C'est très vrai, du reste, au point de vue moral. On ne peut pas nier. C'est quelque chose de très grand, c'est lié à l'amour. Mais toutes ces philosophies restent liées à l'homme et ne dépassent pas l'homme. Je crois que Heidegger veut dépasser en pensant l'être, en pensant l'entelecheia, en pensant l'ousia, à sa manière, mais en le pensant. Et alors à ce moment-là, on dépasse. Bien, je crois que c'est le point de vue dans lequel nous nous plaçons. Nous essayons de redécouvrir une philosophie première. J'ai montré comment elle apparaissait, comment elle émergeait. Maintenant, il faut montrer que la philosophie première ne peut pas rester à la substance, à la qualité. Elle est obligée d'aller plus loin. Pas parce qu'Aristote parle de l'acte, mais tout simplement parce que nous voulons penser à sa suite, essayer de comprendre. Alors, je crois que le premier signe qui nous est donné pour montrer que nous ne pouvons pas rester au niveau de l'ousia, si grande que soit l'ousia, on ne peut pas rester à l'ousia. On ne peut pas rester à la qualité, si grande que soit la qualité. On ne peut pas rester à la relation, si intéressante que soit la relation, Hamelin. Il faut qualifier les philosophes par leur sommet. C'est intéressant à faire. On est obligé de dépasser. Alors, le petit signe qui nous est donné, c'est le langage. Je crois que c'est la première chose que nous devons comprendre. Le langage nous oblige de dépasser l'ousia. Parce que dans tout jugement, il y a un dépassement de l'ousia, exprimé par le verbe. Le verbe exprime l'action. Et le verbe, dans ce qu'il a de radical, exprime que la réalité est, existe. Il y a les deux aspects. Le verbe est d'abord un verbe d'action. Dans les langues très primitives, il y a toujours un verbe au niveau de l'action. Manger, on comprend très bien, c'est la première chose qu'on dit. Mange, dors, l'impératif catégorique joue là. Marcher, travailler, toujours, toujours, ça se trouve partout. Tandis que dire le point de vue de l'être, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus élaboré. Cependant, autant qu'on peut regarder les philologues sur ce point de vue-là, ils disent que dans la langue grecque, le verbe « être » est très très ancien et contemporain de tous les verbes qui expriment l'action. Alors, dans la langue latine, il y a des divergences, et les uns affirment que non, alors c'est pour ça que je ne m'avance pas. Du reste, peu importe. Mais c'est intéressant de regarder les évolutions des langues par rapport au verbe être. C'est intéressant. Une manière de se saisir. Ça. Et étant donné qu'il y a là un problème qui est très très intéressant, c'est que le langage manifeste en effet que le verbe est d'abord un verbe d'action. Le verbe est toujours lié à l'action.
Il exprime tout par mode d'action. Et alors, au-delà de l'action, il y a le sujet qui existe. Pour agir, pour marcher, pour manger, il faut exister. Cogito ergo sum. N'est-ce pas ? Donc, si je pense, c'est que je suis. Au-delà de la pensée, il y a le ergo sum. Donc, le point de vue de l'existence. Alors, il faut bien comprendre que le verbe exprimé dans le langage nous met donc en présence de quelque chose qui est au-delà de toutes les catégories et au-delà du sujet des catégories. Donc, au-delà de la substance première. Ceci pose une question au philosophe, puisque c'est un signe. Existe-t-il, y a-t-il dans l'ordre de l'être quelque chose qui explique le langage de l'action et de l'exister ? Mais je n'explique pas la métaphysique par le langage, mais le langage est un signe. C'est un signe très fort, hein. Surtout quand on le retrouve dans le bout de l'angle. Il y a quelque chose sans doute qui est au-delà de la substance et au-delà des catégories. Donc il doit y avoir quelque chose. Je ne l'explique pas, je me pose la question. Est-ce que l'intelligence humaine, quand elle saisit la détermination fondamentale ou la source de toutes les déterminations, est-ce que l'intelligence humaine s'arrête? Selon le langage, non. Le langage me montre que l'intelligence humaine ne s'arrête pas aux déterminations. Elle veut saisir un au-delà de ces déterminations dans le sujet, mais elle dépasse même le sujet. Alors vous voyez, c'est là où c'était très intéressant de voir dans une petite analyse très, très simple, nous revenons à notre jugement d'existence. Ceci est. Il est évident, grammaticalement, être est relatif à ceci. Et au point de vue, c'est sûr, hein, le verbe est relatif au nom. Ça ne peut pas être autrement. S'il n'y a plus de nom, le verbe, pour pouvoir exister seul, doit prendre un substantif, un mode de nom. Et alors le mode de nom, c'est être. Être s'exprime, c'est le verbe qui est passé à l'infinitif pour prendre une modalité substantive. Est ne tient pas tout seul. Il s'appuie sur le ceci. Et il s'appuie toujours sur le ceci. Tout verbe s'appuie sur son sujet. Il est relatif au sujet. C'est le sujet qui marche. Ce n'est pas le verbe qui marche. C'est le sujet qui marche. C'est le sujet qui travaille. Ça, c'est tout simplement l'analyse du langage. Donc, le verbe est relatif selon l'analyse du langage. Mais qu'est-ce que je vois? C'est que le verbe, je peux, il y a une formule. Quand il y a le participe, il y a l'infinitif. Pourquoi ai-je besoin de substantialiser le verbe? C'est une grave question. Pourquoi ai-je le besoin de substantialiser le verbe? Alors que c'est si simple de le laisser relatif au nom. Pourquoi? Est-ce que ça n'indique pas quelque chose? Est-ce que ce n'est pas le signe de quelque chose? C'est que, de fait, ça prouve que le verbe n'est pas seulement relatif. C'est que le verbe, je peux le considérer pour lui-même. Alors, si je peux le considérer pour lui-même, en prenant un mode substantiel, ça prouve que rester toujours le verbe relatif au nom ne me fait pas comprendre le verbe. Vous voyez, c'est là où je pose le problème. C'est important de saisir ça. Que, de fait, il y a cette forme, on a inventé ça. très curieux. Le langage est quand même signe de quelque chose. On invente ce besoin de substantialiser ce qui n'est pas substantiel, ce qui est relatif. Alors vous allez dire, ah oui, ça c'est la forme abstraite. Le mur est blanc, la blancheur du mur. Vous voyez, je fais de la blancheur, donc c'est vrai aussi pour les catégories. Oui, c'est vrai aussi pour les catégories, c'est très vrai. J'ai besoin de regarder l'attribut pour lui-même. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose de très très particulier dans l'analyse même que fait l'intelligence, c'est qu'elle a besoin de ramener toujours quelque chose à l'aspect fondamental de la substance. Donc au point de vue du langage, le verbe est relatif au nom, et le nom est d'une certaine manière relatif au verbe. Nous verrons ça demain.